bienvenue sur Caboche. Pour cette deuxième émission, j'ai eu envie de me laisser glisser dans un monde qui m'est cher, la mer. Envie de vous emmener à la rencontre de cet élément extraordinaire, immensément plus grand que nous, et dans lequel on sait pourtant se faufiler grâce à une invention qui ne date pas d'hier, la navigation. J'ai découvert le monde de la mer et des voiliers à 22 ans, en atterrissant presque par erreur dans un chantier naval associatif dans le Finistère. En bonne cévenole, je me faisais une idée de la navigation assez caricaturale. La mer, ça doit être un truc relativement plat sur lequel on va flotter de temps en temps pour le plaisir de bronzer peinardement loin des plages à touristes. Autant dire que ça ne m'intéressait que très moyennement. Je n'oublierai jamais les émois de mes premières navigations en découvrant les vagues, le vent, la sensation ahurissante de voir les voiles se gonfler d'air et le bateau avancer. La cohésion aussi, ce qui se noue au sein d'un équipage d'une heure, d'une semaine ou d'une année. Les longues heures des quarts de nuit où le temps n'a plus cours. Le voyage lentissime vers l'ailleurs, où l'on met 2 semaines à parcourir le chemin qu'un avion fait en 6 heures. La jouissance de cette lenteur. Les rêves de la Terre lorsque l'on ne l'a pas vue depuis longtemps et 1000 autres choses encore. J'avais envie de vous parler de la mer. Dans cette émission, vous rencontrerez Marion, une amie de bateau qui vous racontera un peu de ce monde-là. Entre 2 phrases, vous entendrez quelques morceaux de texte que j'ai écrit en mer, dans des moments de vide, de mal de mer ou de contemplation. Ils vous seront lus par la jolie voix d'Émilie. Bonne écoute.
Alors j'ai 25 ans, je m'appelle Marion. En arrière-plan, il y a ma grand-mère qui était amoureuse de la mer, qui était peintre, qui a jamais trop travaillé dans la vie parce que mon grand-père est médecin. Et elle m'a transmis une espèce de passion qui... où c'était la contemplation, la poésie, juste des sons d'un moment partagé, simple quoi. Aller à la plage, regarder les bateaux, faire de la peinture. Et après, quand j'ai grandi, je dessinais beaucoup. J'ai fait les beaux-arts. Enfin, ça s'est réduit en une espèce de colère parce que j'étais vraiment... j'étais déçue parce que j'avais envie d'apprendre pour moi et finalement t'apprends plus à te vendre, à promouvoir ton art et à vendre ton âme. Et même si j'ai appris beaucoup là-bas, j'avais envie d'être libre et de lâcher, de tirer un trait, pas définitif, mais au moins faire une parenthèse sur la création. Et puis j'ai réfléchi, je me suis dit ouais, le bateau quand même ça m'appelle et ça venait de rien en fait. Et puis je me suis dit, bon, je vais me renseigner un peu. J'ai pensé à l'armée, puis ça m'a vite... je me suis rendu compte, à la gare, j'ai rencontré un marin de la Marine nationale qui m'a dit, bah, les nanas dans ton genre, déjà, il n'y en a pas beaucoup. Et les rares qui ne savent pas pourquoi elles veulent rentrer à l'armée, elles comprennent tout de suite à quoi elles vont servir. Je ne te le conseille pas, quoi. Et moi, j'étais ancrée en Creuse avec mon mec, la ferme, les chevaux, tout le bazar. Et j'avais trop envie d'apprendre à faire du bateau. Et du coup, ouais, il y avait 2 projets qui poussaient, un réel et un en rêve. Et en fait, j'ai privilégié le rêve. J'étais beaucoup en introspection. Je parlais assez peu quand je suis arrivée en Bretagne. Je crois que j'ai découvert la rudesse du climat, le mal aux oreilles quand il fait vraiment froid et qu'il y a le vent qui te déchire le dedans du tympan. Et en même temps, une énergie énorme, un bloc d'énergie brute que je me suis toujours un peu trouvée molle. Des fois, j'étais consternée de me rendre compte qu'il y avait des copains qui faisaient plein de trucs, qui avaient plein de projets. Et où moi j'avais la flemme en fait, ou alors ça me plaisait pas suffisamment, je sais pas. Et en fait quand je suis arrivée en Bretagne, cette flemme elle a complètement disparu. C'était immédiat, je me levais le matin, j'allais voir la mer, je sautais dedans, elle était à 9 degrés, c'était super rigolo. J'avais froid, je me séchais, je rentrais, je faisais autre chose et il s'était passé plein de trucs sans que ce soit calculé quoi. Et puis ouais, des sons aussi, des nouveaux sons dans le sable, dans les cailloux. Un univers de cailloux, beaucoup. Les rochers, j'aime beaucoup les rochers. Un peu un truc d'enfance, quoi. Je crois que j'ai retrouvé des sensations que j'avais quand j'étais avec ma mamie et qu'on partait patauger dans le marais, qu'on partait faire des châteaux de sable ou juste quand on mettait nos oreilles dans les coquillages pour voir le son que ça faisait. Tu laisses les portes ouvertes, en fait. Tu te laisses un peu envahir. Le bateau, bah, je pense qu'il y a mille façons de l'appréhender. Il y a des gens qui sont tout de suite très curieux, qui vont poser beaucoup de questions, qui vont se demander comment ça fonctionne et avoir un sens un peu pratique de la chose. Et moi, au début, j'ai été dans la contemplation la plus totale, en fait. C'était un outil à rêve, les premières fois, quoi, du moins. Après, bon, je me suis un peu réveillée, mais où j'étais... submergée par un espèce de courant d'informations ultra rapide, et du coup, plutôt que d'essayer de m'engouffrer à l'intérieur, j'étais en planning un peu en parallèle, où je regardais les gens qui s'agitaient, je trouvais ça trop beau, les voiles qui claquent et puis qui d'un coup se gonflent, on avance, on va vite, le bruit que ça fait dans le bateau, l'impression qu'il y a de l'eau qui est en train de rentrer par tous les trous, alors que non, c'est juste les vagues qui tapent sur le bois. J'ai posé assez peu de questions et j'ai appris, ou j'ai vu des gens faire, et quand j'ai senti que j'en avais envie, j'ai fait comme ils faisaient, quoi. Sans me demander comment ça s'appelle, les mots bâbord, tribord, lofet choqué, tous les trucs un peu de bateau. Pour moi, c'était un nouveau dictionnaire aussi. Au début, c'était vraiment juste une matière à expérimenter physique, en fait. Et j'ai eu peur, je crois, un peu.
De quoi ?
Ben, je crois que quand t'expérimentes un truc complètement nouveau et où t'as l'impression que tous les gens qui sont autour de toi savent et que toi, tu sais pas, je sais pas, j'ai eu des moments d'absence où je me suis rendu compte que il y avait un monde énorme. Un truc, c'est un univers qui est... C'est une planète, quoi, la planète de la mer et des bateaux. Et ce monde-là, là, de me rendre compte que, ben... Ça faisait plein de sous-mondes et de sur-mondes et de... Bah, tu peux voyager, tu peux aussi rester à terre, tu peux réparer les bateaux, tu peux t'occuper de la pêche, tu peux être océanographe, tu peux... Enfin, en parlant des métiers, mais tu peux aussi le vivre, l'expérimenter aussi physiquement, tu peux être plutôt sportif ou pas du tout, peindre ou n'importe quoi. Et ben ça, j'ai eu peur, et puis après il y a eu ces pensées-là et ça m'a beaucoup rassurée, quoi. Et je me suis dit, bah, je me sens bien. Et ça faisait longtemps, je crois, que j'avais pas senti un truc comme ça, quoi. Quand on navigue, il y a un peu la même émotion que un sportif qui sent que son corps, il est optimisé, quoi. Et ben dans un bateau, t'as un matériau. Si on prend l'exemple d'un bateau en bois qui est lourd, bah, quand il commence à avancer et qu'il est bien réglé et que toi t'es à la barre et que t'avances, déjà t'as tout un tas d'obstacles, faut réfléchir aux marées, au courant, aux cailloux, tout ce qui t'entoure, les autres, tout ça. Mais quand ça fuse, quand t'avances et que tu sens que le bateau il donne toutes ses possibilités, et ben t'es en accord, comme si toi t'étais la tête et que le bateau c'était ton corps, quoi. Ça fait un peu ça. T'es dépendant du vent, quoi, et de la mer, et c'est un truc qui est complètement incontrôlable. Je pense que ça parle à l'âme d'enfant, en fait.
L'âme d'aventurier.
Bah ouais. Je pense que c'est à peu près l'exact inverse que quand t'es mioche et que, admettons, t'as un avion ou un bateau dans la main et tu le prends comme ça et tu le mets devant tes yeux et tu le fais avancer dans l'air, dans le rien, tu vois. et ben là t'es adulte et t'es sur un machin et toi tu bouges plus et ton jouet il avance dans le rien quoi. Et toi t'es spectateur de ton... c'est quand même un gros jouet hein, mais... Et il avance comme ça et enfin voilà, c'est trop jouissif quoi. C'est trop beau.
Petit matin du 29 juillet. Le soleil a fini par éclore, il est blanc et l'île en dessous est bleu pâle. La mer me suce méthodiquement, je sens mon énergie qui doucement décroît et quitte mon corps. Elle y laisse un vide, une absence que viennent aussitôt remplir des images hallucinées et une vague nausée. Je décline, mais je veux que Souriane, mon coéquipier, se repose. Si souvent c'est lui qui endosse mes petites fatigues et maladies, aujourd'hui, pour une fois, je tiendrai le coup, je tiendrai la mer. Alors je reste et j'essaie de déchiffrer tout ce qui autour de moi bruit, s'ébouge, lire les secteurs de vent. C'est si long de remonter ce timide fil d'air pour reconquérir ce qu'une heure de dérive nous a fait perdre. Pourtant, je sens que j'ai accepté, je ne suis plus en lutte. Faire du bateau, c'est à ce prix-là, et faire du bateau nous rend libres. Donc par extension, remonter au près à une allure purement limacesque le long de la côte embrumée de Tenerife me rend libre. Cette équation de peu de choses me rend la route presque poétique. Mais tout devient poétique quand le soleil se lève quand on a trop peu dormi. Même les bosquets d'hôtels qui crèvent la côte sur tout son long ont une certaine poésie dans ce matin en demi-teinte. Il est 8 heures. D'ici une heure, j'aurai peut-être enfin rejoint le point où nous étions à 3 heures du matin. Le champ de boue est jaune. Comme un drôle de pâturage en pleine mer. Qui sait ce qu'ils ont caché sous l'eau ici? Écrire m'aide à tenir, mais convoque la nausée. Combien d'histoires aurais-je écrit pendant mes quarts si je ne passais pas mon temps à flirter avec le mal de mer? Le vent a à peine forci. Soudain, le bateau se cabre, fend les vagues de façon plus assumée, plus sonore. Il se barre presque tout seul, mais je tiens trop aux infimes degrés que je pourrais lui soutirer pour le laisser aller à l'envi. Oh merde, je suis crevée. Mais aussi tellement présente au bateau et au dehors. Ces longues heures à écouter tous les petits signes du vent et des voiles donnent une densité particulière à cette zone indéfinie. Là où porte le regard, là où le bateau accepte d'aller, ce petit morceau de monde que je traverse et dont je me sens faire partie si fort puisque je l'écoute et que je converse avec lui. La mer est mon interlocutrice et Karina, tout en poulie, penon, winch et compas est mon langage, ou mon instrument peut-être. Je joue d'elle pour me gagner les faveurs du vent. Je ne suis pas une très bonne instrumentiste, mais j'apprends. Ces heures de solitude à la barre, ce n'est ni plus ni moins que cela. Répéter ses gammes, improviser des harmonies heureuses ou foireuses, mêler l'appris à l'instinct sensible de l'élément pour en lui ouvrir une poche où se répercute par écho la musique du monde. 9h40, il faut que je dorme un peu. Le soleil monte, j'ai enlevé ma veste de quart. Au revoir, peau de nuit. Souriane est réveillée et prépare des galettes de gofio pour le petit déjeuner. Lui, la nuit, ne l'a pas encore tout à fait quitté. Il a encore son bonnet et ses petits yeux gonflés de sommeil. Maintenant qu'il fait tout à fait jour, on est moins seul sur la mer. Un voilier passe portant au devant. Des ferries sillonnent entre les îles. Les pardellas, ces drôles de mouettes typiques des îles Canaries, se marrent et caquettent, courent sur l'eau en faisant flac-flac. La poésie est partie, mais je me sens confiante. L'impression d'être en accord avec le moment. Le vent a fait un petit cadeau. Si rien ne bouge, dans une heure, nous serons arrivés. Tout doucement se profile la fin d'un moment qui paraissait ne jamais devoir s'achever. Par caprice, caprice du vent, de la côte, de la nuit, caprice de moi aussi, avec ma fatigue en auréole. Mais les caprices ne durent qu'un temps.
Ça fait un an, presque jour pour jour, un petit peu moins d'un an. On est parti fin octobre avec mon chéri pour acheter un bateau dans les Antilles. Et on bossait depuis un moment avec mon copain. Et puis en fait, quand ce bateau-là a été mis en vente, on a récupéré ce bateau-là. On a appris un peu à dompter la bête, à voir un peu ce que ça faisait. J'ai été malade comme jamais j'avais été malade sur un bateau. par stress, je pense. J'ai découvert ce que ça faisait que d'avoir la gerbe et de sans pouvoir contrôler quoi que ce soit, alors que quand c'était le bateau des autres ou quand il y avait quelqu'un d'autre qui gérait ou que je me sentais pas seule, enfin là on était deux, mais c'est l'inconnu et c'est l'inconnu que tu contrôles en fait. Et je crois que j'ai un gros problème avec ce sentiment de perte de contrôle, de peu importe les situations, mais c'est un état qui me fait très peur. Et du coup là j'ai découvert la peur, j'ai découvert aussi ce que ça fait que d'avoir trop chaud. Là t'as un bateau qui t'appartient, tu peux aller où tu veux, et c'est toi qui choisis. Et là, on va où en fait? À la fois il y a plein d'endroits qui te paraissent dingues, des fois tu passes devant, tu te dis « Oh, je m'arrêterais trop là, ce serait génial !» Il y a des jolies petites criques et tout, et en même temps, on est bien aussi à avancer, à regarder le paysage, et ça fait bizarre d'aller nulle part, quoi. Enfin, les chemins, ils mènent pas à Rome sur l'eau, c'est... Des fois, t'es bien sur l'eau, et puis t'as pas spécialement envie de t'arrêter non plus. On m'a déjà posé la question à un terrien qui m'a demandé si je m'emmerdais pas sur mon bateau. Et en fait, une journée type, c'est sûr que t'as pas fait grand-chose dans le sens où t'as pas été profondément dans une recherche ou t'as pas bossé 35 heures dans ta semaine. Mais à côté de ça, tu t'ennuies jamais, quoi. T'as tout le temps « Oh, ce petit machin, il est cassé, faut le réparer. Oh, là, je penserais bien. Ou « Oh, tiens... Et si on allait à tel endroit acheter de la peinture pour ci, pour ça ?» T'es tout le temps en train de bricoler, faire à manger, c'est une aventure aussi à chaque fois. C'est tout petit, il faut faire la vaisselle. En mer, ça bouge, alors le four il est surcardant. Des fois ça dégueule, quand ça tombe, ça tombe dans les fous du bateau. C'est pas « je passe un coup d'éponge ». Si ça a le malheur de se barrer, ça fait tout le tour du bateau et t'as perdu ta nouille, tu la retrouves un mois plus tard. Dormir, c'est trop chouette de pouvoir dormir dans un lit qui te berce un petit peu. Pourquoi on fait ça? Pourquoi le chien court après le chat? Parce que c'est quelque chose qui est tellement différent de toi. Et c'est un monde inconnu, le fait d'avoir une vision sous-marine, juste de ce qui se passe sous l'eau, et d'avancer avec du vent, être dans une petite coque. En fait, tu peux pas fuir. Et tu peux pas fuir l'autre, tu peux pas non plus te fuir toi-même, en fait. T'es en même temps, t'es coincé, ça t'apprend la rigueur, ou le lâcher prise. Il y a une exigence où, il faut faire les choses, parce que si tu les fais pas, ça peut être dangereux pour toi. Mais c'est un truc qui est tellement vaste, je pense qu'un vieux marin de 90 ans, s'il continue de naviguer, il continuera d'apprendre des choses, quoi. C'est pas un terrain qui est fini, c'est un terrain qui est en constant mouvement, la mer, elle bouge tout le temps, le vent, il est tout le temps en mouvement aussi, et du coup, ça t'es aussi, toi, de fait, tout le temps en mouvement. Et je pense que c'est peut-être pas agréable pour tout le monde, hein, mais moi, ça me convient bien. Que l'immobilité naturelle, ça m'enferme, ça m'avale un peu, je crois. L'hiver m'avale. Et la mer, elle a envie. Si elle t'avale, après, c'est fini, quoi. Moi, j'ai plus l'impression qu'elle nous recrache, elle nous pousse à avancer.
C'est août 2018. En levant ce petit rigolo du grand spectacle aujourd'hui, la fine fleur, la crème de la crème, la cerise sur le gâteau, un vrai poème, le vent des Canaries. Capricieuse, je suis pour juger des phénomènes d'ici sur les uniques critères de ma norme, mais enfin quand même. Arriverons-nous jamais? Y a-t-il encore au monde un endroit où le vent souffle continuellement d'un endroit vers un autre, sans s'arrêter tous les quarts d'heure pour faire la bise aux vagues, aux îles, aux pardela, au soleil, au ciel, aux nuages, et à qui sais-je encore d'autre, sauf à nous. La bise à nous, il ne nous la fait pas.
On a eu du bol, en fait, mais on n'a pas des gros revenus, on n'est pas, on n'a pas de vrai métier tous les deux, on s'intéresse à tout, mais on est un peu précaires, quoi. t'as accès à un monde de riches bourgeois, direct, parce que t'arrives dans un port ou dans un mouillage, donc face à toi, c'est le Club Med, c'est la zone touristique, les endroits où il y a les gros restos. Donc d'un côté, ouais, c'est facile de trouver du boulot, c'est facile de trouver de quoi s'approvisionner, faire des courses, et en même temps, c'est l'endroit le plus cher pour faire des courses. Et puis, bah, c'est pas du tout ce qu'on recherche, nous. Disons que, ouais, c'est faut jongler, quoi. Avec cette espèce de faux statut de bourgeois qu'on n'est pas du tout, qui nous est collé à la figure, de blanc colonisateur un peu bizarre aussi, était pas du tout mal vu comme un nomade les saisonniers en camion qui sont chassés d'un peu partout. Finalement, c'est un peu les mêmes objectifs, c'est un peu la même liberté qu'on goûte, quoi. J'ai vécu en camion avant et... Dès que tu commences à avoir des chiens, ou que, voilà, t'as été un peu abîmé par la vie, ou quoi, bah ça peut devenir assez vite compliqué, t'as une grosse frontière entre l'humain, sa maison, son travail, ses habitudes, sa petite vie à terre, et le nomade qui peut apporter de la peur, l'homme mobile et sale, pauvre... de quoi il vit, qu'est-ce qu'il fait, est-ce qu'il se drogue. Ça, en mer, ça existe beaucoup moins. Il y en a aussi, et il y en a des sacrés aussi, des sacrés phénomènes, mais il y a beaucoup moins cette image-là qui nous est collée comme une étiquette de nomade nocif. Et d'un autre côté, c'est peut-être aussi parce qu'on n'est pas sur la Terre. Et en bateau, t'es dépendant. Du terrien. T'es dépendante de celui qui plante, des arbres, des... Tu peux manger du poisson, mais on n'est pas non plus des dauphins, hein, donc faut manger aussi autre chose. Et bon, bah, il y a des fois où, misère de pêche, t'as rien depuis 3 jours. Si t'arrives à terre et que t'as besoin, t'es dans le besoin, en fait. Donc t'es libre, mais t'as besoin du terrien pour être libre. Comment respecter les gens, la nature, l'île sur laquelle tu débarques, où est ta place? Parce que bah, le marin, à la fois il a besoin de la terre, mais la terre elle a pas spécialement besoin de lui. Du coup c'est difficile de s'imposer et de s'impliquer aussi. T'as envie d'avoir une empreinte limitée sur la planète et en même temps bah, l'anti-fouling, les peintures sous-marines... Les vernis, les voiles, les coques en plastique, tout ça, ben, ça génère une industrie qui est polluante, qui est même très polluante. Ouais, ça se mord la queue des fois. En même temps, ça te rappelle à l'humilité beaucoup. T'es en bateau, ça fait des jours et des jours que tu navigues. Je prends l'exemple de quelqu'un qui arrive d'une transat. Ça fait des jours et des jours que tu penses à la Terre, que tu l'as rêvé, tu l'as imaginé, ça fait des jours que tu l'as pas vue. Là, t'arrives, tu vois la Terre, tu t'en rapproches, t'as le bateau, tu ranges ton bateau, tu mouilles, tu vas fouler le sol du pied, t'as croisé une frontière qui est réelle, quoi. C'est un mur d'eau qui sépare une terre de l'autre, et toi, tu viens de la traverser. T'arrives par la limite, l'extrême limite de la Terre, quoi. Tu t'as pas pris l'avion et comme ça, paf, t'es catapulté au milieu de l'île. T'as pas du tout ce côté-là, quoi. Tu peux te couper du monde, complètement. Et c'est verbalement, c'est la réalité, quoi. Tu peux totalement te couper du monde, de la politique, de l'économie, de la façon... On est parti au tout début, à la naissance des Gilets jaunes, en France, et après on a suivi l'évolution de loin. Mais non, la liberté, je pense que c'est une liberté qui est... Un montagnard, il peut se sentir libre parce que il se sent vif, à vif, avec la nature. Il a son cœur qui est ouvert directement aux choses qui, pour lui, sonnent avec l'accent de la liberté. Et la mer, ça fait un peu ça aussi, quoi. T'es quand même léger. T'es quand même... T'es pas lourd. Si tu décides de partir, tu pars. Tu décides de rester, et ben tu restes. Quand tu rencontres d'autres marins, t'as toujours plein d'expériences à partager, plein de trucs. N'importe quel marin, qu'il soit riche ou sans le sou, avec un énorme bateau ou un tout petit truc. C'est des univers complètement dingues. Là, on a rencontré des gens. Ils plantent des graines hyper vivaces, en fait, à l'intérieur de toi. C'est un milieu qui est hyper ouvert, avec des gens qui sont très, très gentils. C'est un milieu qui est très généreux. Et comme tu peux être assez vite enfermé, t'es dans un tout petit espace quand même, et ben tu laisses beaucoup plus de place à l'humain, quoi. S'il y a des gens qui sont curieux de rencontres ou quoi, tu vas pas te sentir envahi s'il y a quelqu'un qui vient te voir. Enfin, c'est tellement un truc à partager, quoi, ce plaisir de la mer. C'est tellement une poésie qui est collective. C'est pas un truc... Ça peut se vivre tout seul, il y a des marins solitaires, mais en même temps, ils sont tous amoureux des hommes, les marins, quoi. C'est tous des gens qui aiment l'homme, qui sont profondément amoureux de cette espèce... C'est des gens qui réfléchissent, qui aiment lire, qui sont curieux, qui font plein de choses et qui ont envie de le partager, ça, quoi. Et ben, dans le monde du bateau, l'identité, elle est vachement plus... Elle est humaine, quoi. Elle est dans le partage. Elle est autant dans la mer que dans l'homme, je crois.